En fait, je suis membre de l'église de Honnay peut-être depuis 80 ou 79, je ne sais pas, parce que j'étais au Buis et puis il y avait tellement de monde là-bas que je me suis dit, allez, on vient à Honnay parce que là-bas, ça démarre. Et puis après, je me suis marié, donc Ursula m'a rejoint. Et j'étais mécanicien pasteur pendant 5 ans dans cette église. Donc pas la mécanique dans l'église, mais voilà.
Je vais juste donner quelques nouvelles d'une part de notre famille, mais aussi un peu de notre ministère actuel. D'abord, en fait, cette année est une année spéciale parce que ça fait exactement 30 ans, fin juin, qu'on a pris le bateau pour partir au Sénégal. Est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a toujours pas encore la photo. Il va y avoir une photo de la famille que nous étions à l'époque. À l'époque, on avait 4 enfants et l'aîné a fêté ses 5 ans en arrivant au Sénégal. Alors voilà, donc vous verrez les photos tout à l'heure. Alors on a eu une année, en fait 12 mois, vraiment très intense au niveau de la famille cette année, je dois dire, parce qu'on a eu 2 mariages, heureusement un sans Covid et un avec Covid, enfin dans la période où il y avait le virus. On a eu la naissance de 3 petits-enfants et puis on a aidé 4 de nos enfants à déménager. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Alors, bon. Donc là, vous voyez notre famille quand on est parti. Et on est parti au nord du Sénégal. Donc on est parti avec 4 enfants, donc 2 filles. Et ensuite, on avait eu les 2 garçons. Tu peux... Voilà. Non, on retourne juste en arrière. Donc on était au nord du Sénégal. Donc comme ça, vous voyez, il y a de quoi prier pour la bénédiction dans ce pays vraiment aride. Voilà, tu peux continuer. Ah d'accord, pardon. Ok. Donc là, ce sont nos filles. Donc on voit 2 des enfants qui sont nés, les plus petits. Alors notre deuxième fille. Alors pour ceux qui étaient à la réunion de prière, ils ont déjà entendu ça, mais j'ai quand même envie de vous le redire. Donc elle et son mari et leurs 2 fils travaillent au Soudan du Sud depuis bientôt 2 ans, je pense. Et bon, ils ont déjà dû être évacués 2 fois. Et là, quand ils sont... Donc, ils étaient revenus aussi juste à temps pour la naissance de la deuxième. Et le Seigneur, il avait vraiment organisé. Ils ont pu voyager sans problème depuis le Soudan du Sud et arriver en Europe peu après. Il y avait le problème de la pandémie. Donc, le Seigneur a permis qu'ils puissent tranquillement voyager et arriver en Europe sans encombre où elle a pu avoir le bébé. Par contre, la question, c'était pour le retour. Et c'était vraiment compliqué. À un moment donné, on ne pouvait plus faire de papier, rien du tout. Il leur fallait les papiers pour la deuxième qui était née en Europe. Et finalement, ils avaient décidé de partir après le mariage de notre plus jeune fils. Et puis bon, ben, ce n'était pas possible à ce moment-là. Ils se sont dit, bon, alors au mois d'août, ça n'allait toujours pas. Et puis après, ils avaient vraiment à cœur le 3 septembre. Et il semblait que théoriquement, tous les papiers devaient être prêts à ce moment-là. Mais le 3 septembre est arrivé, il n'y avait toujours rien. Alors, dans la circulaire, notre fille écrit, je crois que c'était plus par frustration et par entêtement que par grande foi. En tout cas, ils se sont levés, et ils ont pris le déjeuner, ils ont fini leurs bagages, mis les bagages dans la voiture, mis les filles sur leur siège, attaché les filles, ils allaient prier encore ensemble et puis partir pour l'aéroport. Quand le téléphone a sonné, le papier était arrivé. Alors dans ce pays c'est pas facile, là si tout va bien ils espèrent donc pouvoir voler lundi, ils sont encore dans la capitale pour la quarantaine obligatoire, lundi ils espèrent prendre l'avion parce qu'il n'y a pas moyen d'y aller autrement pour le camp de réfugiés où ils travaillent, mais il y a une inflation terrible ces temps-ci, donc on ne sait jamais comment les choses évoluent. Donc, on continue à prier simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que vu comme le Seigneur a guidé les choses, ils savent leur place, c'est là-bas. Voilà. Suite, ouais. Donc, ça, ce sont nos 3 garçons. Alors, celui tout à droite et celui tout à gauche, c'est les 2 qui se sont mariés durant cette année. Celui tout à gauche, ben, eux sans Covid. Et puis, les 2 tout à droite, en 6 jours, ils ont dû faire... réorganisé pour la 3e fois leur mariage, mais il a eu lieu. Merci Seigneur aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne notre famille. Je donnais juste des nouvelles parce que je sais qu'il y a des gens qui prient depuis 30 ans pour eux. particulièrement Pépita, merci. Ouais, nous sommes vraiment reconnaissants, chacun suit le Seigneur. Et au niveau de notre ministère, eh bien, pendant bien des mois, pratiquement toutes les réunions se passaient par visioconférence. Là, les choses ont repris pour André. Il est de nouveau beaucoup en route pour des préparations aussi d'événements avec des personnes travaillant pour d'autres organisations missionnaires. Et c'est juste intéressant, ils étaient en train de réfléchir, est-ce qu'il va y avoir des restrictions ou pas? C'est difficile d'organiser un petit peu sur le long terme. Et puis, ce qui est juste intéressant, c'est qu'il y en a qui disaient « Ah, mais peut-être qu'il faudrait faire dans différentes églises ou sous une autre forme. » Et tout à coup, il y avait un tas d'idées. On se disait, il y en a qui ont dit « Ah, mais on pourrait encore faire ça. » Disons, moi, ce que je trouve super, c'est que le Covid, cette pandémie, c'est un problème. Et en même temps, ça force les gens à trouver d'autres façons de faire. Et le Seigneur, lui, il n'est jamais coincé. Et en fait, ça me rappelle aussi quand il y avait eu la persécution des disciples à Jérusalem, ça les oblige à sortir. Et le Seigneur les a envoyés là où ils n'étaient pas prêts à aller peut-être avant, ils préféraient être ensemble. Disons, c'est juste intéressant de se dire, le Seigneur, il a toujours une façon de faire. Et puis, en pensant justement à cette histoire de pandémie et combien on était coincés, parce qu'il y a un tas de choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Mais au niveau de notre mission, ce qui est formidable, c'est tout ce qui se fait d'autant plus par Internet. Les gens qui, dans bien des pays, qui n'ont pratiquement pas le droit de sortir sans avoir de grosses amendes. Bon, pour la France, vous savez, mais il y a le Moyen-Orient où ils sont tout aussi coincés. Enfin, il y a différents pays où c'est le cas comme ça. Et de se souvenir, dans la parole, il est écrit « La nuit vient où personne ne peut travailler ». Et je crois que cette pandémie, elle nous prépare. Mais en même temps que les problèmes, eh bien, il faut voir où sont les solutions que le Seigneur donne en attendant que la nuit complète soit tombée. Et je crois qu'il faut vraiment en profiter. Et puis, j'ai dit que cette année écoulée était vraiment dense. Et puis, spécialement pour moi, les 6 derniers mois, alors c'est toujours la pandémie, n'est-ce pas? Ce livre que vous voyez là était sorti sous une autre forme il y a plus de 20 ans en anglais. Et moi, quand je l'ai vu, il est super parce qu'il parle de différents peuples et pays avec des histoires un peu spécifiques, des infos et des sujets de prière et de louange pour pouvoir prier pour ces peuples et ces pays. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans le travail parmi les enfants. Même au Sénégal, les enfants des rues, même qui venaient à l'église, ils voulaient prier. Ils avaient à cœur de prier. Et c'est juste intéressant de voir combien, en 20 ans, les sujets de prière ont changé. Et les peuples aussi pour lesquels on prie. Et alors, à cause de la pandémie, il y a eu tout à coup un mail qui est arrivé, une Française, une Parisienne complètement coincée et confinée chez elle, mi-mars, un mail qui arrive, elle est prof d'allemand, j'ai reçu ce livre en allemand, il faudrait vraiment pouvoir le traduire, je suis prête à aider. Cette femme, elle fait la relecture pour le journal Tournesol, pour ceux qui le connaissent. Donc, elle est bien placée pour aider à la traduction. Elle était prête à aider gratuitement, mais elle ne pouvait pas le faire toute seule. Et c'est comme ça que, alors que ça faisait 20 ans que j'avais ça à cœur, eh bien, la pandémie a permis qu'on s'y attaque et on s'y attelle. Merci pour ceux qui ont prié parce qu'ils reçoivent notre lettre de nouvelles. Eh bien, juste pour vous dire, mercredi, j'ai envoyé tout le texte à la CLC. Là, ils vont relire, mettre en page et nous renvoyer le manuscrit. Voilà. Donc, juste pour vous encourager, puis vous encourager à continuer à prier pour tous ces pays que le Seigneur vous met à cœur et les peuples, que ce soit ici, en Suisse ou ailleurs. Voilà. Merci. Et merci vraiment pour votre soutien dans la prière. On sent que vous êtes derrière et pour le soutien financier sans lequel on n'aurait pas tenu non plus.
Là, vous êtes aussi en train de vous applaudir vous-même parce que ça fait quand même 35 ans que vous nous soutenez. C'était marqué 30 ans, mais ça, c'était le Sénégal. Parce qu'avant, il y avait, je vous avais dit, cette phase où j'étais mécanicien pasteur. Et j'ai beaucoup appris au sein de l'église d'Onet. J'étais pasteur assistant. Et puis, c'est vrai que ça fait 35 ans. Donc, le Seigneur aussi vous applaudit parce que vous êtes fidèles. Et je prie pour que tout ce qui était semé par vous, par l'église, porte beaucoup de fruits. Parce que c'est vrai qu'on aimerait que l'église soit pleine, hein, et puis que ça ne suffise pas, qu'on doive encore faire de la visioconférence pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion d'entrer dans l'église. Le thème de mon message, alors, ce n'est pas le message type que j'aime apporter, hein, parce que j'aime bien prendre un texte, décortiquer le texte, comme ça après vous rentrez avec les versets, et puis vous pouvez revoir le message. Ce soir, ça sera plutôt un petit peu une salade russe ou une salade de fruits. Voilà, mais c'est bon aussi. Alors, la vision de la moisson. Quelqu'un a dit, par rapport, plusieurs personnes ont dit, par rapport à cette crise du Covid, ou la Covid, puisque l'Académie française veut mettre un féminin, notre monde a changé pour toujours. Notre monde a changé pour toujours. Et c'est vrai que quand on regarde au mois de mars, début mars, comment on vivait, et comment après les 4 mois ont suivi, moi, j'ai mon bureau qui donne juste sur l'autoroute, là, quoi. Elle est à 800 mètres, hein, donc ça va, je n'ai pas de bruit. Mais pendant 4 mois, plus d'embouteillage le matin. Je voyais les voitures passaient de temps en temps. Et puis là, tout à coup, au mois de fin juin, comme ça, début juillet, ça a recommencé. Et puis la même chose, si vous regardez les radars d'avion, à un moment donné, l'Europe était vide. Et quelqu'un a dit, notre monde a changé, mais il a changé pour toujours. Donc, il y a vraiment un avant-Covid et un après-Covid. Et pour donner quelques exemples où les choses ont changé dramatiquement, parce que ça, en fait, il y aurait de toute façon eu dans ces années, ces décennies à venir, des changements, mais ils ont tous été, beaucoup ont été accélérés par la crise. Si on regarde les transports, avant, on pouvait voyager pour très bon marché un peu n'importe où. Et tout à coup, maintenant, à cause de cette crise, beaucoup de compagnies luttent pour survivre, donc les prix montent. Donc les voyages bon marché, il est possible que ça soit terminé. Si on regarde le chômage, si vous les écoutez un peu à la radio, les écoutez les nouvelles, il y a licenciement ici, licenciement là. Donc c'est vrai qu'on a bien survécu jusque-là, jusqu'au mois de septembre, mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va venir au niveau mondial dans ces prochaines années. Et toutes ces conférences Zoom qu'il y a. Avant, Zoom, les visioconférences, ça existait. Mais maintenant, il y avait une explosion de ce matériel, de cette utilisation. Et en fait, dans notre mission, on voit que ça a été une grande bénédiction parce que les équipes se retrouvent, des fois alors qu'elles sont éloignées de 100 km comme ça, elles se retrouvent pour prier chaque semaine. Donc il y a une nouvelle dynamique qui est entrée. L'église qu'on fréquente à Bienne n'avait jamais de culte en streaming. Et puis maintenant, à cause de l'urgence, ils ont investi 10 000 francs, les caméras et tous les dimanches, on peut suivre le culte en streaming. Donc il y a eu tout à coup un bond en avant. Ce qu'on aurait peut-être fait dans l'Église dans 20 ans, ça se fait aujourd'hui. Et beaucoup d'Églises sont dans ce cas de figure où finalement les choses sont enregistrées. Si on regarde le traçage, vous voyez, on aime la vie privée. Et maintenant, joyeusement, on met des applications dans le téléphone pour qu'on soit tracé. Je dirais, c'est des choses incroyables. Bon, on sait que les Chinois ont déjà des moyens fantastiques pour reconnaître les gens, mais en fait, il y a une accélération du traçage. On s'inscrit pour aller au culte, c'est incroyable. Il y a des chrétiens qui refusent de venir au culte parce qu'ils ne veulent pas mettre leur nom. Bref, il y a une accélération. Il y a vraiment un avant et un après Covid. Vous voyez, nous les chrétiens, nous savons qu'est-ce qui nous attend. Le chrétien le sait ce qui va arriver parce que la Bible nous le dit. Donc face à l'avenir, on n'est pas désorienté, mais on sait où on va. Et le mot épidémie est aussi dans la Bible. Il y aura de grands tremblements de terre. Vous voyez, les disciples, à un moment donné, ils disaient à Jésus, mais qu'est-ce qui va se passer avant ton retour? Et dans Luc 21, Jésus répond, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront, des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Les évangiles nous donnent beaucoup de détails sur tout ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Donc la Bible veut vraiment nous encourager à savoir qu'est-ce qui va venir. Qu'est-ce qui va venir avant le retour de Jésus? Est-ce qu'on a maintenant... Moi, je n'ai jamais vécu un truc pareil, hein, comme le Covid. Que les écoles ferment, que les magasins se ferment et que les magasins se vident tout à coup parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait plus de papier WC. Je n'ai jamais vu ça en 60 ans. Le chrétien n'est pas étonné de ce qui vient et il sait qu'il y aura probablement, certainement même, des choses pires qui vont venir parce que la Bible nous le dit. Donc les évangiles donnent beaucoup de détails. Et dans la Bible, on voit qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui savaient qu'est-ce qui allait venir. Ils discernaient qu'est-ce qui venait. Quand vous regardez Noé, quand vous regardez Daniel, quand vous regardez Jérémie, tous ces hommes de Dieu, ils savaient qu'est-ce qui se passait. Ils savaient qu'est-ce qui allait venir dans l'avenir. Et j'aime beaucoup ce texte de 1 Chronique 12:32 où il est parlé des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Le chrétien est quelqu'un qui est appelé à avoir l'intelligence des temps. Nous devons discerner dans quel temps nous sommes. Et c'est un petit peu en lien avec cette dimension de la sentinelle. Le chrétien, une de ses missions, c'est d'être une sentinelle, d'observer ce qui se passe, de considérer s'il y a des dangers, veiller aux dangers, d'avertir entre nous, dans l'Église, prier les uns pour les autres, recevoir des paroles comme ça a été reçu ce soir, veiller les uns sur les autres, veiller aux dangers, voir ces dangers qui viennent peut-être de l'extérieur, qui s'infilent dans l'Église, ou les dangers qui touchent notre société, et se mettre à intercéder davantage encore pour les autorités. Le chrétien est appelé à être une sentinelle. Dans Ézéchiel 3:17, il est dit au prophète Ézéchiel, « Je t'établis comme sentinelle. » Et il continue dans le verset 17 du chapitre 3, « Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Et dans 33:7, il y a un peu la même idée qui ressort où Dieu dit à Ézéchiel, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Ça, c'est vraiment une des missions du chrétien. Prier, que dans la prière, on comprenne la pensée du Seigneur, qu'on continue de prier en fonction de cette pensée qui nous est révélée, et peut-être parler à un frère, une sœur ou un non-chrétien et lui dire des choses qui vont le toucher. Oui, face à la pandémie, l'Église doit être une sentinelle qui avertit, qui montre la direction à prendre. Luc 21:11, il y aura encore des tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Voilà, donc soyons prêts pour davantage encore d'événements comme le Covid-19. Comment est-ce qu'on voit les événements actuels? Et on pourrait se dire, mais est-ce que je suis irrité? J'en ai ras-le-bol de ce masque, j'en ai ras-le-bol des confinements, j'en ai ras-le-bol de ces difficultés de voyager, j'en ai ras-le-bol de ces absences de grandes réunions. Il y a tellement de grandes réunions qui ont été annulées, hein, la RJ à Bulle, les PIWAN à Fribourg, etc. Toutes ces grandes réunions qui ont été annulées. On a peut-être assez de ces visioconférences. Si vous faites du télétravail, vous avez peut-être envie d'aller voir les collègues. Et on peut se poser la question, mais quelle est ma vision? Est-ce que je suis irrité, énervé, déprimé ou plein de foi, en foi dans ce Dieu qui est le maître de l'histoire? Alors c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui passent par des situations dramatiques parce qu'ils ont été touchés dans leur santé, parce qu'ils sont tout à coup au chômage à long terme, parce que justement le patron ne peut plus fonctionner dans cette situation de Covid. Il y a des situations dramatiques, mais Dieu reste le maître de l'histoire et il veut intervenir, soutenir dans chaque situation. Et je me suis demandé, est-ce qu'on subit, nous en tant que chrétiens, les chocs comme un ballon, vous voyez? Le ballon, il prend beaucoup de coups dans un match, hein? Ou est-ce qu'on est là avec des jumelles et puis on est un peu la sentinelle et on regarde au loin? Donc, est-ce qu'on est comme un ballon On prend les coups? Ou est-ce qu'on a dans les mains ces jumelles qui nous permettent de scruter, de voir qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a des lectures très utiles à faire, c'est Matthieu 24 et 25 qui parlent de tous ces signes qui précéderont le retour de Jésus, Marc 13, Luc 21. Il y a une abondance d'écrits, de paroles de Jésus sur ces signes qui précéderont son retour. Nous sommes des sentinelles. Et au milieu de cette crise du Covid, mais des autres crises qui viendront encore, c'est important d'avoir une bonne vision. Avoir une bonne vision. Et quand vous lisez tout le chapitre 21, vous voyez, il y a des paroles qui sont terribles, quand ça parle de guerre et tout cela. Mais il y a aussi ces paroles qui disent, Luc 21, 28, « Levez la tête et prenez courage, car votre délivrance se rapproche. » Quand vous voyez toutes ces choses venir, levez la tête et prenez courage. Au milieu de ces troubles, au milieu de ces crises, c'est donc notre responsabilité de veiller à notre vision. Comment est-ce que nous regardons? Donc c'est pour ça que c'est important de relire ces textes de Matthieu, Marc et Luc, et il y en a plein d'autres encore, et de lire l'Apocalypse. Il y a des précieuses paroles là-dedans. Et un des premiers messages de Jésus aux disciples, quand il avertit, quand il dit tous les signes qu'il y aura, il dit à ses disciples de veiller. Jésus leur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Prenez garde à vous-même. Et c'est intéressant qu'ils disent prenez garde à vous-même. Donc il faut prendre garde à ce qu'il y a à l'extérieur, mais il faut aussi prendre garde à ce qui est dans notre âme. Éveille-toi, mon âme, comme ça a été dit au début du culte. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire ou de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour, le jour du retour de Jésus, vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Et là, il répète encore une fois, restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Donc là, au milieu de tous ces signes que Jésus donne, ces signes qui précéderont le retour de Jésus, Jésus, il dit, mais prenez garde, faites attention, veillez sur vous-même. Donc il faut avoir cette vision sur les événements qu'il y a autour de nous et aussi regarder à soi et se dire, où est-ce que j'en suis dans ma vie de disciple? Et moi, je me suis converti en 1975, ça fait un bail. Hein. Mais ce n'est pas parce que j'ai, il faut vite que je fasse un calcul là, 45 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas parce que j'ai 45 ans de vie chrétienne, d'ailleurs c'était le 19 septembre 75. Ce n'est pas parce que j'ai toutes ces années que c'est une garantie que je vais être ferme. Même moi, je dois veiller sur moi-même. Donc si tu es converti depuis un an ou 45 ans, il faut veiller sur soi-même. Donc au milieu de tous ces troubles, il faut veiller sur notre vision, veiller sur soi-même, veiller et regarder mais qu'est-ce qui se passe autour de nous et intercéder personnellement et intercéder en Église. Parmi ces signes que Jésus donne, il y a un signe par rapport à la moisson. Dans Matthieu 24, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu » Donc avant son retour, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. Ces petits mots-là, alors seulement, nous disent que Jésus ne peut pas revenir si l'évangile n'a pas été proclamé dans le monde entier. Donc cette bonne nouvelle du royaume doit être proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage, alors viendra la fin. Et avec cette parole, il faut se poser la question, mais alors, où en est la diffusion de l'évangile? Est-ce que Jésus pourra venir parce que tous ces milliards de gens ont entendu l'évangile? Où en est la diffusion de l'évangile? Quel est l'état de la moisson? Et quand je regarde à la moisson, mondiale. Je pense à ce mot contraste. Contraste. Et j'ai pris beaucoup de matériel dans ce livre qui est en vente là-dehors, là, à la sortie. Il paraît que la sortie sera là après, donc la table, elle va bouger, paraît-il. J'ai pris beaucoup de cartes de ce livre écrit par Patrick Johnston. Patrick Johnston, il était missionnaire en Afrique du Sud. Il a appris des langues bizarres là-bas. C'est intéressant quand il commence à prononcer des mots là. Mais lui, il avait vraiment un fardeau pour la prière et il a écrit un petit livre là, tout petit, Flash sur le monde. Et puis après, il est devenu de plus en plus épais et il va sortir l'année prochaine en français. C'est peut-être 600 ou 700 pages, je ne sais pas combien. Mais lui, il a vraiment été une de ces sentinelles qui a regardé, mais où en sont les pays ? Comment va la politique ? Mais surtout, comment va la diffusion de l'évangile ? Dans quel état sont les églises ? Et dans son livre, il mettait aussi toujours des sujets de prière. D'ailleurs, c'est son épouse qui a écrit la première édition de ce livre que Ursula a traduit. Alors, contraste. Et en fait, il prie pour que beaucoup de ces cartes qu'il a faites seront fausses. C'est-à-dire que ses prévisions pour 2050, il prie pour que ça soit faux, et vous allez voir pourquoi. Alors voilà, d'abord une carte du monde. Vous avez ici l'état du monde en 1900. Plus c'est rouge, moins il y a d'évangéliques. Plus c'est jaune, plus il y a des évangéliques, plus il y a des églises. Alors vous voyez, vous avez peut-être déjà vu cette carte ici, je ne sais pas. Mais si je l'ai montré, c'est peut-être qu'il y a 12 ans en arrière, dans un cours sur la mission. Vous voyez, l'Amérique du Nord, l'Australie, c'est vraiment réjouissant. Et puis après, il y a eu toute cette phase des missions modernes qui sont rentrées dans les pays avec des moyens surmultipliés. Et puis donc, l'Évangile a commencé à se répandre davantage. On voit par exemple la différence en Afrique, combien ça a changé de couleur. Et puis, en 2000, vous voyez, il y a vraiment des choses très réjouissantes qui se passent. Mais si ça continue comme ça, à quoi ressemblera le monde en 2050 ? Et voilà donc les prévisions de Patrick Johnston. Et il prie pour que ça soit faux. Pourquoi est-ce qu'il prie pour que ça soit faux ? Ben, vous voyez, simplement parce que si vous regardez le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, il y a des zones qui sont encore très, très, très peu touchées par l'Évangile, si ça continue comme ça. Donc, vous voyez, là déjà, on voit un contraste. Progrès de l'Évangile extraordinaire dans certaines régions. Et puis dans d'autres régions, on pourrait dire presque rien ne bouge. Et si on regarde en détail, voilà, l'Asie en 1900. Voilà. Donc ça évolue, on peut se réjouir. Ça, c'est en 2000. En Chine, vous voyez, il y a eu beaucoup de conversions malgré toute cette action de Mao. Mais à quoi ressemblera l'Asie en 2050 ? Et vous avez peut-être souvent lu qu'en Chine, il y a tellement d'églises, il y a tellement de croissance de l'église. Mais où est cette croissance ? Et si on prend un détail de la Chine, voilà ce qu'on voit. En fait, la concentration des évangéliques est essentiellement dans des zones assez limitées de la Chine. Et là, il y a un gros plan sur cette zone où il y a énormément d'évangéliques. C'est absolument incroyable. Mais par contre, il y a des zones, si vous regardez parmi les Tibétains, les Ouïghours ou d'autres, il y a très, très, très peu de choses. Et le problème, comment allez-vous vous rendre dans le Tibet chinois ou chez les Ouïghours en Chine ? Ça, c'est l'immense problème. Parce qu'il faut toujours des autorisations. Et la Chine contrôle tout. Et si vous lisez tout à coup de nouveau des nouvelles des Ouïghours musulmans, priez pour eux, parce que c'est un de ces grands peuples musulmans non atteints. Il est en Chine, il est enfermé, ils sont terriblement persécutés, ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans. Mais qui ira annoncer l'Évangile ? Donc il y a des défis qui aujourd'hui sont énormes. Alors on peut se réjouir de ces endroits en Chine où il y a tellement d'évangéliques. Mais même ces évangéliques, comment pourront-ils se déplacer dans ces zones de Chine où il y a tellement peu d'évangéliques ? Donc le défi est là, le défi est énorme, le défi est réel. À votre avis, quel est le mouvement qui connaît la plus forte croissance. Il y a des gens qui pensent que l'islam, là, on en parle tout le temps, c'est l'islam qui connaît la plus forte croissance. Ok. Alors voilà un autre graphique qui a été fait par Patrick Johnston. Ce qui est en gris, c'est la moyenne, c'est le taux de croissance de la population mondiale. Hein, vous voyez, là, il s'écrit monde, c'est orange et jaune, là, ou rouge-jaune, ça dépend comme vous voyez ça. Le taux de la population mondiale est vers le haut, là, et le bouddhisme, les non-religieux, les catholiques et les orthodoxes ont une croissance plus lente que la croissance de la population mondiale. Et vous avez déjà vite regardé quels sont ceux qui connaissent la plus forte et la plus rapide croissance. Donc ce sont les évangéliques. En fait, dans certains graphiques, les charismatiques sont avant les évangéliques. De toute façon, comment vous distinguez un charismatique d'un évangélique ? Voilà. Il faut déjà voir comment les statisticiens, les chercheurs font la différence. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une explosion du nombre d'évangéliques dans certains pays. Et il y a des gens qui parlent vraiment de cette explosion évangélique. Si vous regardez le Brésil, si vous regardez la Corée, c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé là-bas au niveau évangélique. Donc il y a une explosion, mais là aussi on a ce contraste entre ces zones où il y a tellement de chrétiens évangéliques et puis d'autres zones où il n'y en a pratiquement aucun. Et le successeur de Patrick Johnston, qui a écrit le livre dont Flash sur le monde, Jason Mandrick, il a dit que en 1960, 50% du monde était non évangélisé. Donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Et maintenant on est passé à 28% du monde qui est non évangélisé. Mais avec la croissance de la population, en fait, le nombre de non évangélisés a augmenté. On est passé de 1,5 à 2,2 milliards de personnes non évangélisées. Et donc, chaque jour, 66 000 personnes s'ajoutent au groupe des non évangélisés. Alors, il y a une croissance extraordinaire. Il y a de moins en moins d'ethnies où il n'y a aucun chrétien. Donc, on peut se réjouir de ça. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a encore du boulot. Il faut encore voir une église missionnaire, une église qui est missionnaire ici à Honnay et qui est missionnaire jusqu'aux extrémités du monde. Contraste, donc l'explosion évangélique dans certaines zones et finalement le désert spirituel dans d'autres zones. Il y a un autre aspect à souligner, c'est le contraste entre pays riches ou pays développés et pays du Sud. Ici, vous avez la pyramide des âges. Donc, sur votre gauche, là, vous avez les pays moins développés et ici, les pays plus développés qui ont un déficit au niveau de la jeunesse, un déficit de population, et c'est marqué là. Donc, le phénomène qui va se passer, c'est que différents phénomènes amènent une migration, et pour ceux qui ne veulent pas trop de migrants, pour ceux qui espèrent que la migration se termine, eh bien, c'est loin d'être terminé. Parce que cette vague migratoire, on en a encore pour des décennies, c'est absolument sûr, à cause de tous ces problèmes de pression économique, de déficit de la population. Et j'ai lu récemment un livre où il y a ces choses qui sont dites. En ce moment, 66 millions de personnes, je vais lire ça sur ma feuille, 66 millions de personnes dans le monde sont forcées de migrer. Et les chiffres changent tout le temps, hein, et ça augmente plutôt. 42 500 personnes sont déracinées de chez elles chaque jour. Une personne tous les deux secondes. Environ 13% des adultes du monde, soit plus de 640 millions de personnes, disent qu'ils aimeraient quitter définitivement leur pays. Vous voyez, donc il y a un mal-être. Il y a des crises politiques, des crises économiques, toutes sortes de crises, des crises spirituelles, et les gens ont envie de quitter leur pays. Donc cette vague migratoire, elle n'est pas terminée. Donc il y a ce contraste entre nous, qui avons tout ce qu'il faut quand on va à la Migros, et puis des gens qui doivent peut-être faire, 10 km pour aller simplement chercher de l'eau. Donc la vague migratoire n'est pas prête d'être terminée. Contraste. où en est la diffusion de l'évangile. Ah là, vous avez un petit tableau qui est, oui, par certains côtés, assez terrible. Voilà, comment, conclusion, comment est-ce que nous voyons les événements actuels? Est-ce qu'on pense que le Covid, c'est juste une mauvaise grippe? Et puis bon, c'est venu, ça va partir. C'est comme un moustique qui nous pique, puis on a la malaria, ça va partir. Est-ce qu'on voit ces événements actuels comme ça? Ou est-ce qu'on voit là quand même un signe de ce qui va venir en plus fort dans les années à venir? Oui, cette crise, comme l'a dit Ursula, c'est une crise qui peut être salutaire pour l'Église. Ça peut nous secouer, mais ça peut aussi nous endormir. Hein. Il y a des chrétiens qui ont pris plaisir au culte à la maison, à la télévision, parce que, et puis finalement, ils vont peut-être devenir tièdes à cause de cette crise. Donc notre appel, c'est vraiment de nous réveiller. J'avais parlé de ce défi de la moisson avec ses contrastes. Et juste pour montrer, alors par rapport à la Corée où il y a tellement d'évangéliques, le Brésil ou certains pays d'Afrique, voilà la tâche qui reste à accomplir. Vous avez ici le pourcentage, les pays, la liste des pays où il y a le moins d'évangéliques. Tunisie, Somalie, Yémen, Maroc, Turkménistan, Mauritanie, Maldives. Il y a des gens qui vont en vacances aux Maldives. Mais est-ce qu'on sait quel est le gouvernement qu'il y a là-bas? Comment est-ce que les gens là-bas sont dominés par la religion du lieu? Donc le défi est là. Alors, ici, il y a une liste qui est terrible, qui doit nous pousser à prier. Mais là, il y a une autre liste. Ça montre qu'il n'y a jamais eu autant de conversions parmi les musulmans, il n'y a jamais eu autant de musulmans qui sont tournés vers Jésus qu'aujourd'hui. Alors il y a des chiffres un peu étonnants ici, il y a des gens qui discutent, mais est-ce que c'est vrai? Indonésie, 6 millions de chrétiens d'arrière-plan musulmans, Nigeria, 500 000, Iran, 500 000, et peut-être vous avez entendu parler de tous ces Iraniens qui se convertissent, il y a vraiment un mouvement. Donc on a à la fois un tableau comme ça, qui est dramatique, où moi je ne savais plus que la Tunisie a si peu d'évangéliques. Donc il y a toute cette liste de pays où il y a d'énormes besoins. Et puis il y a d'autre côté cette liste où on voit qu'il y a eu tellement de fruits en Indonésie ou en Iran. Et il y a une ancienne musulmane qui est devenue chrétienne, donc une iranienne, qui a dit « Je loue le Seigneur pour Khomeini, parce qu'à cause de lui j'ai trouvé Jésus ». Vous voyez, donc il y avait cette domination, ce dictateur de Khomeini, mais elle louait Jésus pour Khomeini parce qu'à cause de lui, elle était dégoûtée de l'islam et elle s'est tournée vers Jésus. Alors, quels sont les défis immédiats? Il y en a beaucoup. Et je termine par un contraste biblique aussi, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des contradictions dans les versets qu'on voit dans la Bible, hein. Jean 9, 4 nous dit « La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et puis, Paul, dans Romains 13, il dit « La nuit est avancée, le jour approche. » Alors, des fois, on se dit « Mais alors, la nuit vient où personne ne peut travailler, ou bien la nuit est avancée, le jour approche. » Je pense que c'est deux côtés d'une même vérité. On va aller dans une nuit de plus en plus dense, mais où les miracles de Dieu seront aussi de plus en plus intenses. Et c'est ça, on est dans la nuit, mais le jour approche, le jour du retour de Jésus. Et j'aimerais terminer par ce verset de Romains 13, qui nous donne aussi tellement de choses importantes, où Paul dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » La nuit est avancée, le jour approche. Alors quoi? Dépouillons-nous des œuvres. Et là aussi, je trouve intéressant qu'il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il faut revêtir? Des armes. Donc on est vraiment appelé à entrer dans un combat spirituel plus intense. Je m'arrête là, mais je pense que 2-3 personnes pourraient maintenant prier à haute voix, soit pour intercéder pour des pays qui sont sur cette liste, soit pour louer le Seigneur pour des pays qui sont sur cette liste où il y a eu tellement de conversions. Donc vous choisissez, mais que plusieurs personnes puissent maintenant prier, intercéder, louer, combattre, revêtir ces armes de la lumière pour que le jour, on soit prêt pour le jour où Jésus revient.